Ok, ben voilà, merci d'être là, presque au complet hein, cette fois-ci. Je ne sais pas si tout le monde a pu écouter, pour ceux qui n'étaient pas là la fois précédente. Donc, comme je vous l'avais dit, on est face de nouveau à une espèce de double vision, un peu comme celle qu'on avait vue avec Ananias et Paul et Saul. Donc l'un a une vision, l'autre en a une, et les deux concordent. Non, c'est un peu le même genre dans les textes du chapitre 10. On commencera donc par la vision adressée à Corneille. Et puis, en janvier, quand on se retrouvera, on attaquera la vision de Pierre.
Ah, c'est celle-là qu'elle est là, la nappe. Vous ne savez plus
qu'elle était après. C'est l'histoire de la nappe.
Oui. Ben, c'est deux choses un peu semblables. Enfin, c'est pour dire le même message quand même, non?
Oui, en tout cas, chacun est invité à contacter l'autre, en gros. Oui. Hein? Ok, donc ça veut dire quoi? Pour introduire un petit peu avant la lecture, c'est qu'indépendamment de toute intervention humaine, en fait, Dieu lui-même veille à l'intégration des païens dans la voie messianique. Alors, on voit qu'il y avait déjà eu quelques petites avancées, hein, on ne sait pas trop, parmi ceux qui se sont convertis à Lydda ou à Joppé, sans doute y avait-il déjà des craignants en Dieu, donc des païens d'origine. Mais ici, manifestement, on se retrouve devant une vision qui est beaucoup plus intéressante, puisque c'est vraiment le tout début alors de l'ouverture de la voie messianique aux païens. Mais c'est-à-dire, quand on parle de voie messianique, on dit bien que les païens sont incorporés dans la même assemblée que les juifs. Donc à partir de là, un certain nombre de païens, qui côtoyaient parfois les juifs déjà, comme c'est le cas de Corneille, mais les païens vont de plus en plus participer aux mêmes activités, jusqu'à ce qu'il y ait les grosses crises qui font qu'un jour, tout ça, c'est un petit peu stoppé, on va dire ça comme ça. Donc, indépendamment de toute intervention humaine, Dieu s'arrange avec lui-même pour que les païens puissent être englobés, accueillis et dans la même vie communautaire que les juifs. Et je pense que c'est tout le chapitre 10, finalement, va nous bercer vers cette avancée. Et le chapitre 11, ce sera le retentissement sur la communauté de Jérusalem, c'est-à-dire comment Jérusalem va apprécier ou non l'entrée des païens dans le milieu messianique. Voilà, si quelqu'un veut lire les 8 versets du jour.
Or à Césarée, un homme nommé Corneille, centurion de la cohorte appelée Italie, et craignant Dieu avec toute sa maison, faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priant Dieu continuellement. Il vit clairement en vision, environ vers la 9e heure du jour, un ange de Dieu entrant auprès de lui et lui disant « Corneille ». Et fixant les yeux sur lui et étant tout effrayé, il dit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et il lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées pour mémorial devant Dieu. Et maintenant, envoie des hommes à Joppé et fais venir Simon, qui est surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, courroyeur, qui a sa maison au bord de la mer. Et quand l'ange qui lui parlait s'en fut allé, Corneille, ayant appelé deux de ses domestiques et un soldat pieux d'entre ceux qui se tenaient toujours auprès de lui, et leur ayant tout raconté, les envoya à Joppé.
Alors on a déjà parlé de Césarée, hein. Je ne sais pas si certains s'en souviennent. Quels sont vos souvenirs sur Césarée? Oui, Philippe était monté à Césarée, après passer par la bande de Gaza. Ouais. Voilà.
Il y a un Césarée de Philippe. C'est de celui-là dont on parle.
Non, c'est de Palestine.
Non, ça c'est Césarée aussi. Maritime ici.
Ah.
Césarée en bord de mer.
Okay. En Saint-Marc.
Voilà. Ouais. Donc il y a effectivement deux Césarées, donc faut pas se tromper nécessairement. Donc. Vous rappelez que ça, on en avait parlé au chapitre 8, en fait, hein, notamment verset 40 de Césarée. Alors, pour être très clair, c'est pas n'importe quelle ville. Hein. C'est une ville qui était, oui, quasi romaine, qui était la résidence permanente du gouverneur romain de Judée, La ville a été construite par Hérode. C'est Hérode qui a voulu faire bien, très bien même. Et d'ailleurs, il paraît que du temps de la ville, c'était une ville splendide, plutôt gréco-romaine, etc. Elle est située à environ 49 km au nord de Joppé, le long de la côte, hein, quand on continue la côte. 49, 50, ça dépend un peu comment, qui a mesuré. Hein, bon, voilà. On trouve un peu toutes sortes d'indications, mais ça tourne autour de cela. C'est-à-dire quand même pas facile à faire en un jour le trajet. Donc on comprendra pourquoi les domestiques et soldats mettront 2 jours pour arriver à Joppé. Et dans cette ville était stationnée une garnison romaine assez importante. On y reviendra tout à l'heure. Du coup, on comprend mieux ce que Corneille vient faire là, évidemment, si on sait que Césarée était plutôt une ville romaine, plutôt à la gloire de César, hein, la ville, et dans laquelle le gouverneur de toute la Judée habitait. Il montait à Jérusalem exceptionnellement, notamment pour les grandes fêtes, quand il y avait des fêtes, pour pouvoir diriger la garnison à Jérusalem et intervenir si nécessaire. Voilà, alors on dit qu'un homme, au verset 1 toujours, du nom de Corneille, alors pour un lecteur grec, ou même pour nous-mêmes je pense, on sent bien que Corneille c'est pas très juif déjà, donc rien qu'au nom, on sait que c'est un nom romain, qui est en fait un terme dérivé du mot latin cornix, qui était le corbeau tout simplement, d'où Corneille. On sait tout de suite qu'il s'agit donc d'un citoyen, en tout cas d'un Romain. Et bien sûr, puisque le texte nous le précise, pas n'importe quel Romain. Voilà, c'est pas le Romain lambda. C'est un gars qui fait partie de l'armée impériale. Centurion, donc chef, ou on pourrait comparer ça à un sous-officier, si vous voulez. Hein. C'est un gars qui dirigeait 80 à 100 personnes. C'était généralement 80, la centurie, mais peu importe, on ne va pas se disputer. Les centurions étaient généralement, à contrario des officiers, style tribun, etc., étaient issus du rang. C'est-à-dire qu'ils avaient commencé leur carrière comme soldats, et par leur bravoure, leurs actes, etc., devenaient sous-officiers. Ce qui correspond plus ou moins au grade de capitaine, aujourd'hui, si vous voulez. C'était presque un officier, en fait, hein. Il faut aussi savoir que les centurions étaient quand même la colonne vertébrale de l'armée impériale. Sans les centurions, il aurait été bien difficile d'avoir une armée aussi performante que celle des Romains. Donc c'était quand même des gens appréciés. Il avait donc dû faire ses preuves pour pouvoir avoir ce grade-là et commander à environ 80 personnes. Sa centurie à lui fait partie d'une cohorte, alors ça c'est l'échelon supérieur, si vous voulez, de la garnison, qui elle-même, la cohorte, représentait environ 600 hommes. D'accord ? Donc dans une cohorte, à peu près 600 hommes, c'est-à-dire un dixième d'une légion, pour ceux qui veulent jouer avec les termes romains. Et à l'époque, on sait officiellement, par des preuves historiques, qu'il y avait à Césarée 5 au total cohortes. Donc 5 fois 600 hommes stationnés à Césarée et une seule cohorte à Jérusalem, pour vous donner un peu l'idée. Donc on s'attendait à pouvoir... Oui, donc on s'attendait à pouvoir gérer. Et bien, il y en avait d'autres ailleurs, mais en tout cas, dans les deux plus gros postes, c'était Jérusalem et Césarée. Et bien sûr, quand le gouverneur montait à Jérusalem, il emportait une partie de ses cohortes, hein, ne serait-ce que pour sa sauvegarde personnelle, qui n'est quand même pas très copain avec tout le monde. Hein. Voilà, et on sait cela par une inscription qu'on a retrouvée en Syrie, qui date de 69 à peu près, après Jésus-Christ, sur l'état de l'armée à l'époque en Palestine, et notamment dans ces preuves historiques, qu'il y avait bien une cohorte appelée l'italique ou l'italienne. Alors, qu'est-ce que cette cohorte ? Ce sont des citoyens romains issus du terroir de l'Italie. Donc, on sait au moins que ce n'étaient pas des étrangers. Vous savez que dans l'armée impériale, il y a beaucoup plus d'étrangers que d'Italiens, que de Romains, si vous voulez. Donc non seulement ils avaient la citoyenneté romaine, mais ils étaient issus du sol, et c'était donc un privilège sans doute de faire partie de cette cohorte-là. Il y avait un certain prestige à cela. Voilà un peu le genre de personne devant laquelle on est placé par le texte de Luc. Et puis, verset 2, alors, littéralement, je fais référence au grec, hein, on disait que dans sa piété, sa crainte envers Dieu, hein, etc., etc., en fait, c'est pieux et craignant Dieu, c'est assez clair. Hein. D'un côté, ça veut dire qu'il a une foi vivante, si vous voulez, et il fait partie des craignants Dieu, c'est-à-dire de ceux qui suivent
les règles,
la religion juive, sans être circoncis. Donc il n'est pas prosélyte, il est craignant Dieu, dit le texte. Ah. Et là, quand même, c'est la surprise. Ouais. Parce que je ne sais pas si on peut vraiment se mettre à l'époque donc, de ce premier siècle, imaginer les Romains qui sont haïs de la plupart des Juifs, hein, même s'ils ne sont pas violents envers eux, personne ne les aime. Encore moins les impôts romains qui sont prélevés. Et donc là, c'est quand même la surprise qu'un Romain, un ennemi, un représentant des maîtres du monde, hein, c'est comme à l'époque nazie, si vous voulez, membre des forces d'occupation en Palestine, on découvre qu'il est un homme pieux. Il y a quand même...
Mais il y en a eu d'autres, hein, puisque le centurion qui a trouvé Jésus, là, c'est aussi là, qui faisait du bien au peuple juif.
Alors, il y en a peu.
Oui, mais
si tu regardes entre les évangiles et l'acte des apôtres, et même après, on découvre peu de Romains engagés, entre guillemets, engagés notamment par rapport au judaïsme. Donc ça, c'est quand même assez rare. Convertis au judaïsme, ayant une foi vivante, parce que le texte nous le démontre, adorateur régulier, observateur de la loi, fréquentant la synagogue par conséquent.
Hein? Ben oui,
et non seulement cela, ce qui est un comble, c'est qu'on découvre que le pire du pire, c'est-à-dire le Romain soldat, le Romain de l'armée impériale, peut être un croyant, quoi qu'on en pense. Et apparemment, ce Corneille-là est apprécié parmi les Juifs. On ne parle pas de la voie messianique ici, on parle de l'ancien judaïsme. Donc là où il se trouve, là où il fréquente la synagogue, il est apprécié. Alors, quelle en est la raison ?
Il fait des aumônes.
Oui.
Et il prie.
Donc il prie à la synagogue, il sait pas simplement je vous fais du bien parce que je suis un Romain richissime, les centurions étaient quand même bien payés. Non, il ne sait pas pour faire... la vedette, il est vraiment engagé dans ce judaïsme-là. Et on va même jusqu'à nous dire que toute sa maison est concernée. Donc, comprenons bien qu'en grec, le mot maison, tout comme d'ailleurs dans l'araméen, ça veut dire très largement tout le monde est concerné par la foi de Corneille. C'est-à-dire que personne n'a échappé à la pieuserie du bonhomme. Hein. Donc toutes les relations, et on verra plus tard, si quand on abordera la fin du chapitre 10, par exemple au verset 7, au verset 24, etc., on découvre que même des amis vont faire partie de ceux qui vont venir écouter Pierre. Donc il avait quand même une aura assez conséquente. Et ses amis, ce n'est pas des juifs qui viennent écouter Pierre, ce sont des gens de son clan. Et on découvre même, donc, à la fin de notre texte à nous, ce soir, que même un de ses soldats est aussi pieux que lui, finalement. Donc on voit qu'il a... ça a fait tâche, quelque part, son engagement. Alors, il est clair, à mes yeux, en tout cas, qu'ici, il ne s'agit pas d'une foi secrète. Ce n'est pas une foi clandestine. Bien au contraire, le gars s'affiche à la synagogue... Et fait des dons à toute la communauté, dit le texte, à tout le peuple, le texte dit en grec, c'est-à-dire très largement, ça dépasse peut-être même le cadre de la synagogue. Voilà, alors Luc ne nous explique pas, c'est dommage pour nous peut-être, comment il est devenu un craignant Dieu, comment un Romain, membre de l'armée impériale, a pu devenir juif parmi les juifs, si vous voulez. Mais on imagine quand même que son séjour en Palestine y a sans doute concouru. Voilà, c'est pas un hasard, quelque part, quand même. Et au moment du récit, à cause des verbes à l'imparfait, on découvre qu'il est, il l'est depuis longtemps. C'est pas un nouveau converti au judaïsme. C'est un gars qui pratique depuis un certain temps. Et donc le texte nous dit qu'il comblait, je traduis littéralement, il comblait d'aumône le peuple. C'est-à-dire qu'il était hyper généreux. Au point que, alors là c'est pas pour faire un vilain jeu de mots, hein, on dit que les juifs sont rapia, etc. Mais bon, là manifestement c'est pas le cas, et beaucoup de gens bénéficient. N'est pas juif. Hein. Voilà. Comblé d'aumône, sans doute sous l'égide de la synagogue qu'il fréquente, peu importe, mais peut-être même au-delà. Et c'est parce que ça, ce comportement d'aumône, c'est vraiment une application de la loi. Donc il est fidèle jusque dans les petits détails de sa piété juive. Vous voyez ce que je veux dire ? Il va au bout des choses et il fait ce qu'il faut par rapport à ce domaine.
C'était pas un détail.
Oui, non, non.
La prière, le jeûne et le monde, c'était...
Voilà, donc les piliers, apparemment, il remplit toutes les cases. Hein. Et cela devait durer depuis assez longtemps, puisque le texte nous dit, au verset 4 et au verset 31, que c'est à cause de ce comportement que Dieu va s'adresser à lui. D'accord ? Donc c'est ce qui attire, finalement, le regard de Dieu sur Corneille et qui va diligenter cette vision auprès de lui. Un autre détail qu'on apprend, toujours au verset 2, c'est qu'il prie en tout temps, dit le texte, littéralement en tout cas, c'est ce que je vois, en tout temps, c'est-à-dire tous les jours, constamment, en tout cas autant de fois que les Juifs pouvaient prier par jour, manifestement. Et de même, on découvre que sa piété personnelle, sa relation au Dieu d'Israël est remarquable. Il n'y a pas l'ombre d'un problème dans l'engagement de Corneille, le centurion, dans ce milieu juif qui n'est pourtant pas le sien. Et il est reconnu comme tel par les Juifs eux-mêmes. Et voilà qu'au verset 3, on découvre... Alors vous savez, dans les commentaires... Il y en a certains qui parfois disent des bêtises, hein, du style « il a eu une vision pendant son sommeil ». Non, pas du tout. Il faut bien lire le texte tel qu'il est. Au verset 3, on découvre qu'il était en train de prier parce que c'était la neuvième heure. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ce détail? Donc vers 15 heures. On a déjà vu ça dans les Actes. Oui, d'accord. Donc c'était l'heure des prières au temple, pour le dernier agneau offert dans la journée. Donc à 15 heures, les gens, rappelez-vous, on avait vu Pierre et Jean se rendre au temple pour les prières et l'immolation du dernier agneau de la journée qu'on offrait à l'Éternel. Et donc à cette heure-là, qui est l'heure donc juive, monsieur est en prière. Donc ça veut dire qu'il s'aligne vraiment sur l'horaire juif, tout simplement, l'horaire des sacrifices. Et on nous précise quand même qu'il est chez lui, donc il n'est pas à la synagogue. Et ça, vous le découvrez au verset 30, si vous allez voir, au verset 30 du même chapitre. Aussi, hein. Oui, mais voilà, on pourrait passer sur le détail, mais c'est vraiment chez lui, quoi, dans sa maison. Et donc c'est à ce moment précis, alors qu'il est en prière, que la vision intervient. Et le texte, alors si je le lis plus ou moins littéralement, il vit distinctement en vision. Pour nous, ça paraît bizarre. Si tu as une vision, c'est que tu as les yeux fermés, quoi, tu vois. Mais non. Sous-entendu, ce que Luc essaye de nous faire comprendre, c'est que ce n'est pas de l'ordre du rêve, ce qui se passe. C'est de l'ordre d'un événement qui se produit dans le réel. C'est ça que Luc essaye de souligner. En pleine conscience, de manière objective, voilà qu'il était seul en prière et que quelqu'un entre et l'interpelle. Parce que c'est ce qu'on lit aussi dans le texte. Hein, il l'appelle carrément par son nom. Et quelle est la réaction de Corneille ?
Il a les pétoches.
Un petit peu quand même.
Mais il répond, à qui est-il Seigneur ?
Oui.
Donc il est convaincu que c'est...
Donc déjà, il comprend bien que c'est, c'est pas un copain à lui.
C'est, non, pas, okay. C'est pas un fantôme.
C'est pas un serviteur. C'est vraiment Dieu qui lui répond, qui répond à ses prières, manifestement.
Oui, parce qu'il vient
de... Donc du coup, on devine un peu l'objet de ses prières, sans doute. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus, Seigneur ? Oui. Mm-hmm. Moi, je consacre ma vie, mon argent, etc. à ta cause. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Mm-hmm. Donc, vous noterez peut-être qu'au verset 30... du même chapitre, l'ange devient tout d'un coup une personne. Vous voyez, il y a toujours un peu... On l'avait déjà vu dans les actes auparavant. L'ange de Dieu devient un homme, tout simplement. Mais un homme habillé quand même de manière éclatante, hein, brillant, etc. Donc, on voit que pour les écrivains du Nouveau Testament, un ange, si on le traduit littéralement, ange, c'est tout simplement un envoyé, un messager. OK ? Donc, que tu le décris une fois sous un aspect grandiose, hein, du style l'ange de l'Éternel, ou que tu dises que c'est un homme habillé en blanc, mais un blanc spécifique, éclatant, plus blanc que blanc, on imagine bien que c'est quand même pas le commun des mortels. Quoi, hein. Donc, dans l'histoire, on verra que ce n'est pas la première fois que Dieu s'intéresse ou bien prend soin ou se révèle aux païens. Il y a déjà des païens qui sont concernés par le Dieu d'Israël. Et pour rappel, je voudrais quand même qu'on se replonge, on l'a déjà dit, je pense, quand on fait les actes, qu'il y a quand même quelques prédictions dans l'Ancien Testament. Si on prend par exemple Genèse 22, au verset 18, ou le psaume 22, 18, même référence, ou Ésaïe 60, verset 3, on découvre que tout ça était bien prévu, que Dieu souhaite que les nations, comme on dit dans l'Ancien Testament, rejoignent le club des Juifs. Ça, c'est une évidence au travers de l'Ancien Testament. Et on peut y voir d'ailleurs déjà dans l'Ancien Testament quelques hommes qui ont été rattrapés par le Dieu d'Israël. On peut penser à Balaam, par exemple. Ce fameux prophète mercenaire qui consulte l'Éternel, mais qui a bien du mal à aller jusqu'au bout du message qu'il doit rendre, etc., etc. Qui, lui, Balaam, qui est quand même d'origine hébraïque, manifestement, le problème, c'est que lui, il travaille, il est en Iran, si vous voulez, au moment où il a l'appel pour aller dire à Moab que, voilà, tu gagneras pas. Hein, Israël gagnera, etc. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont été concernés par le Dieu d'Israël bien avant. On peut penser à Rahab aussi, la prostituée de Jéricho, qui, ayant épargné les espions, se voit sauvegardée, on va dire, et même devenir quelqu'un d'important dans la généalogie de Jésus, par exemple. On a aussi l'histoire d'Uri, le Uri le Hittite. Mercenaire dans l'armée du roi David. Et si on lit le texte de 2 Samuel, par exemple, on s'aperçoit, 2 Samuel 12, on s'aperçoit qu'Uri était quand même quelqu'un, tout en étant d'origine étrangère, de pieux, qui respecte les lois, qui respecte les règles, à tel point qu'Uri refusera d'entrer chez lui, parce qu'il vient du champ de bataille, qui est quand même impur aussi, l'air de rien, pour le sang versé, et il refuse d'entrer chez lui, de se reposer, de manger, de coucher avec sa femme, etc. Évidemment, ça déplaît un peu à David. Hein. Mais voilà, un homme étranger qui fait partie de ceux qui défendent le royaume de David. Et on a aussi cette fameuse histoire de Naaman, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui lui est qui ? Un général en chef de l'armée de Syrie. Et voilà que ce gars, qui n'est pas du tout croyant, qui ne fréquente pas le milieu juif, est envoyé en Israël pour se faire soigner.
Oui, par la petite esclave.
Oui. Et alors, quand on lui dit, écoute, il suffit que tu ailles te tremper cette fois dans le Jourdain, il prend un peu la mouche. Parce qu'il dit, bon, des...
sérieux, comme s'il n'y avait pas des fleuves.
Comme s'il n'y a pas des fleuves chez moi où je pouvais me tremper cette fois pour me faire faire ça.
Ouais.
Et donc, il décampe, en fait. Il s'en va. Il dit, bon, allez, un peu fâché quand même. Ouais. Mais voilà que cet homme, ben oui, il est touché, touché par la grâce de Dieu. Il guérit de son... Bon, on appelle ça la lèpre, en fait, une maladie de la peau, en tout cas, qu'il rendait particulièrement impur. Voilà. Donc, avec cette vision à Corneille, on n'est pas dans le nouveau. On est dans la continuité, si vous voulez. C'est pour ça que je parle de tous ces textes-là. Mm-hmm. On pourrait peut-être trouver d'autres exemples, d'ailleurs. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont été par les prophètes, je pense à la Syrophénicienne, etc. Des gens qui n'étaient pas juifs, qui ont été aidés, secourus, par les prophètes d'Israël. Donc, avec cette vision à Corneille, on s'aperçoit que Dieu intervient comme il l'a fait autrefois dans l'histoire. Quand il décide quelque chose, il le fait. Et en l'occurrence, vu qu'on est à la période messianique, il va aller jusqu'au bout de la vision messianique des choses. C'est-à-dire, la vision messianique, c'est pas que les Juifs, c'est les nations tout entières qui sont convoquées, appelées à se tourner vers l'Éternel et à faire partie du même grand groupe de gens qui honorent le Dieu d'Israël. Alors le fait que Corneille soit romain et centurion de l'armée impériale laisse quand même entrevoir qu'avec le Messie, tout peut changer. Même les rapports délicats entre les hommes, les ennemis peuvent désormais devenir des frères. C'est la réalité qui nous est... Alors pour moi, c'est très important de se rendre compte que c'est la première fois que Luc nous montre l'entrée des païens, oui, dans la voie messianique, et que l'exemple qui nous est donné, c'est le pire du pire. C'est l'ennemi radical. Voilà. Eh ben, ce sont des choses comme ça qui arrivent à la période messianique. Et Corneille, lui, se rend bien compte qu'il a quelque chose de spécial qui se déroule. Et le texte nous dit même en grec qu'il fixe le regard, c'est-à-dire que c'est pas juste je vois, c'est je suis très attentionné, je vois c'est cet Dieu. Être qui est là, et le texte rajoute même saisi de crainte, hein, oui, voilà, il regarde attentivement l'homme qui lui est apparu, l'ange qui lui apparaît, cherchant sans doute à savoir de quoi il s'agit. Alors le texte grec dit « tout craintif devenu ». Vous voyez, on imagine ce centurion baraqué qui devant l'apparition, quand même, n'en mène pas large, malgré sa carrière militaire, son grade. Devant ce type de manifestation, il est impressionné et il ressent une certaine crainte. Et on voit que l'ange ne tarde pas alors à lui le calmer, si vous voulez, à lui délivrer un message, en lui disant « ben voilà, tes prières et tes largesses se sont dressées en mémorial devant Dieu ». Alors, les versions diffèrent un peu en français. Quoi qu'il en soit, c'est une drôle d'appellation. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ce mot mémorial, qu'est-ce qui fait mémoire?
Toi, tu as mémorial. Tu peux relire le souvenir.
Tes prières et tes aumônes sont montées pour mémorial devant Dieu.
Voilà.
Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu.
Il ne t'oublie pas.
Voilà, c'est un peu le même genre.
Oui, c'est pour que
mémorial,
Dieu
se souvienne.
Dieu
alors,
se souvient de
ça vous fait prières. Penser à quoi, ça? Quelle que soit la formulation de la phrase.
C'est que Dieu voit.
À l'annonciation.
Oui, mais ça lui est agréable.
Ça ne vous fait pas penser à quelque chose de l'Ancien Testament?
Si, mais
Des sacrifices. Des sacrifices de bonne odeur, par exemple. Hein. Mais en l'occurrence, ici, le terme mémorial est sans doute traduit, repris de l'araméen, de manière assez proche, finalement, assez littérale. Et en fait, Luc semble nous dire que le comportement exceptionnel de Corneille, dans son engagement pour Dieu, hein, on ne parle même pas du judaïsme ici, fait que c'est comme s'il avait offert un sacrifice. Et notamment, vous remarquerez le verbe, alors monter, dresser, peu importe le verbe qu'on a en français. L'idée, c'est vraiment l'idée du sacrifice qui est brûlé sur l'autel, et puis l'odeur monte. Et en l'occurrence, le seul sacrifice qui s'appelait Askara en hébreu, c'est-à-dire le sacrifice du souvenir, c'était une offrande réservée à l'Éternel. Donc quand on offrait, je sais pas, un mouton, par exemple, et bien à côté de ça, sur l'autel, on brûlait un gâteau, quelque chose préparé avec de la farine. C'était entièrement brûlé, et l'odeur du gâteau montait au ciel, et Dieu alors se souvenait. C'était le fameux sacrifice de mémorial, le sacrifice du souvenir, si vous voulez. C'est comme si on se faisait souvenir auprès du ciel. Hein, voilà. Rappelle-toi que je suis là, je suis sur la terre, ici. Je vis comme un homme. Voilà, quelque chose dans ce goût-là. Donc on s'aperçoit que Luc fait une espèce, compose une image avec l'engagement de Corneille pour Dieu et les sacrifices qu'on offrait autrefois sur l'autel. Et très clairement, l'attitude spirituelle de Corneille, en tout cas c'est ça que le texte semble nous dire, ne reste pas inaperçue. Au contraire, Dieu le voit, Dieu se souvient de lui, tellement c'est manifeste. Et on retrouve d'ailleurs cette idée au verset 31 du même chapitre, hein, ça nous est redit d'une certaine manière. Je vais quand même le lire, même si on le verra plus tard. Où il est, mon verset 31. Alors, dans la top, c'est peut-être un peu différent, mais il dit « Ta prière a trouvé audience, Corneille, et de tes largesses, la mémoire est présente devant Dieu. » Donc c'est comme s'il avait amassé, si vous voulez, un certain capital de bons points auprès de Dieu, et que Dieu se décide finalement à le choisir lui, parmi tous les païens qui sont proches, parce qu'il y a des craignants de Dieu, il y en a d'autres, il y en a plein. Et parmi tous ceux-là, il en choisit un, et qui est le pire du pire, justement, le Romain type, officier dans l'armée impériale, etc. Voilà, exactement. Alors, en réalité, on peut estimer que cette vision, c'est donc une réponse. Une réponse et au comportement et aux prières. Pour le dire en un mot, un exaucement. Donc, Dieu exauce les demandes ou l'engagement de Corneille et lui dit, en somme, écoute, si tu veux aller plus loin, il faut que tu fasses venir... Alors, je ne sais pas comment c'est dans votre texte. Voilà, Simon, il donne avec des détails où il est, où il crèche, etc. Parce que, d'après l'ange, ça va être utile, ça. Et il t'expliquera. Voilà. On n'en sait pas beaucoup plus. Hein. Envoie des hommes à Jopé pour en faire venir un certain Simon, qu'on surnomme Pierre. Il habite à tel endroit, etc. Et puis, c'est tout. Enfin, c'est tout pour ici. Après, on verra qu'il y a des détails qui s'ajoutent au fil du chapitre 10. Mais voilà, pour l'instant, on est un peu sur notre fin. Et si j'avais été Corneille, je me serais dit oui. Ok, je veux bien faire venir Simon, mais pourquoi faire, hein, en gros. Et donc, une fois que cette vision est terminée, le texte nous dit d'ailleurs, dès que c'est fini, l'ange disparaît. Clac, bon. Alors, ce qui est intéressant... Au verset 5, c'est ce fameux « et maintenant ». Oui. Donc, d'un côté, il y a eu tes prières, il y a eu tes largesses, etc. Et le « et maintenant », c'est un peu, résonne un peu comme une convocation. Maintenant, il faut se bouger. Maintenant, il faut faire un pas de plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce terme marque quand même une étape décisive dans la vie de Corneille. Ça va tout changer pour lui. Même si nous ne connaissons pas tous les sujets de prière de Corneille, hein. On imagine que c'est un exaucement quand même. Donc il va basculer, dans très peu de temps, d'une piété honorable et judaïsante dans la voie messianique qui embrasse universellement les nations, comme, je l'ai déjà dit plusieurs fois, la réalisation de la promesse faite à Abraham. Car n'oublions pas, temps messianique égale ouverture aux nations. Et donc, on est en train de voir de nouveau que ça se réalise concrètement. C'est pas juste une annonce, c'est pas juste la Pentecôte, c'est pas juste les débuts. Maintenant, ça devient la réalité que des craignants Dieu ou des païens qui ne sont même pas craignants Dieu vont entrer dans le même culte, la même louange au Dieu d'Israël. Et en l'occurrence, pour notre ami, cette bascule va aboutir à son baptême au verset 48, peut-être pas que de lui d'ailleurs, enfin bon voilà, au baptême de Corneille. Donc Corneille va vraiment faire des pas supplémentaires dans sa nouvelle forme de judaïsme, si vous voulez. Et Corneille agit rapidement. De nouveau, un peu comme dans d'autres cas que nous avons déjà vus dans les Actes, il comprend que la vision qu'il vient d'avoir est une faveur, une réponse réelle à ce à quoi il aspirait depuis longtemps, à aller plus loin avec le Dieu d'Israël. Et on nous dit donc dans le texte, au verset 7, que Corneille appelle... Alors, selon les versions françaises, c'est pas toujours très évident. Hein, y a des textes qui disent « les gens de sa maison ». Ok. Mm-hmm. Moi, si j'ai des gens chez moi, c'est pas des domestiques, quoi, tu vois. Donc nous, en français, on risque de mal lire le texte. En fait, il appelle deux serviteurs, c'est très concrètement dit en grec, deux serviteurs, deux domestiques et un soldat, dont on nous dit qu'il est d'une grande piété. Et les trois sont sous ses ordres depuis longtemps. Voilà ce qu'on nous dit. Ok ?
Deux hommes de confiance.
Ok. Trois hommes de confiance, apparemment deux pour porter le message et un pour la sécurité. La sécurité des messagers d'une part, mais peut-être surtout celle de Pierre, qui est son hôte, qui va être invité à venir. Donc il vaudrait peut-être mieux qu'il soit accompagné, si on veut qu'il arrive sain et sauf, hein, cool, tranquille. Donc, voyez, alors pourquoi deux? Pourquoi pas un seul?
Parce qu'il fallait toujours être deux pour témoigner, non?
Exactement. Donc c'est toujours le même, qu'on soit en justice ou pas, un témoignage, un message doit être délivré par deux personnes. L'un pouvant corriger l'autre, etc. L'un vérifiant que c'est bien ce que le maître a dit qu'il fallait dire, ouais, peu importe. Dans les cas. Donc on comprend pourquoi il envoie deux domestiques, et on comprend aussi donc la place du soldat, qui lui, alors c'est le seul dont on dit qu'il est pieux, hein, comme son maître, comme son chef. Et on sait aussi, littéralement en tout cas quand on traduit le grec, qu'ils sont fidèlement attachés à lui, c'est-à-dire qu'ils sont à son service depuis longtemps, et donc Corneille choisit, parmi tous les gens qu'il a sous la main, des gens de confiance, c'est ça que Luc essaye de souligner, qu'il connaît depuis longtemps, parmi toutes les personnes qui sont à son service. Donc il fait très attention. Et en général, donc, les messagers vont par deux. Et ici, ajoute le texte, un petit détail au verset 8, c'est qu'ayant appelé ces trois personnes-là, qu'est-ce qu'il fait ?
Il leur raconte tout.
Donc, moi, je sais pas, j'aurais des domestiques, je leur dirais peut-être pas. Vous savez, j'ai vu un gars il y a deux secondes, c'était un ange, il venait me dire d'inviter un truc. Moi, j'aurais. C'est juste, dites, allez chercher Pierre.
Hein, oui, voilà. Sans détail.
C'était beaucoup plus simple. Et donc, on se rend bien compte que.
C'est la confiance.
Littéralement, d'ailleurs en grec, littéralement, c'est ayant expliqué. Tout, dit le texte, ayant expliqué tout à ces trois bonhommes. D'accord ? Donc, dans les détails, il leur explique. Alors, sans doute, si c'est des chrétiens, aussi, enfin des juifs, des judaïsants, ils se disent, oui, chouette. Ça, c'est vraiment incroyable. Notre Corneille a enfin sa vision. Dieu lui a parlé au travers d'un ange, etc. C'est quand même pas rien, quoi. Et donc, il dévoile de manière détaillé à ses proches l'ensemble de la vision qu'il a eue et l'urgence qu'il y a à aller chercher ce fameux Simon-Pierre qui n'est pas juste à côté puisqu'il est à 50 bornes de là et qu'il faut se diligenter, hein, il faut se dépêcher. Donc on imagine, on verra plus tard hein, dans la suite du texte, il faudra quand même presque 2 jours pour arriver et sans doute 2 pour monter. Donc, quasi 4 jours vont se passer dans l'attente.
Peut-être aussi, hein, toutes les deux.
Oui, oui.
Ils font
un petit dodo quand même. Quoi. Donc, ça veut dire quoi, en conclusion? Dieu va jusqu'au bout de sa promesse. Dieu commence à ouvrir les portes aux païens, largement. Et Dieu va aussi un peu forcer la main. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
À qui va-t-il forcer la main ?
À Pierre, non ?
À Pierre et aux apôtres, en général. C'est-à-dire, quelque part, comment aurait-on pu arriver à une situation où les païens sont admis si Dieu n'était pas intervenu ? Je pense que ce n'était pas possible. Même avec toute la bonne volonté des Juifs, voire même des Juifs messianiques, on les aurait toujours conçus comme étrangers, comme craignant Dieu, etc. Mais de là à faire ami-ami, à faire tout en commun, les cultes, les aumônes et tout le bazar, ça aurait été difficile. Surtout si on dit « tous les païens sont conviés ». Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même pas simple. Alors, en l'occurrence ici, dans le choix de Corneille, on a le pire des païens. C'est-à-dire, voilà, c'est le Romain dans tout ce côté exécrable, et c'est un membre de l'armée.
On avait le pire des Juifs. On
pas le côté exécrable.
Eux, ils n'aimaient pas les Romains.
La fonction.
Ceux qui connaissent Corneille l'aiment bien.
Oui, mais les autres.
Quand il fait des aumônes.
Mais donc, quand même, le choix d'un Romain n'est pas neutre. Comme premier païen officiellement entrant. Ceci dit, est-ce que c'est le premier ? Pas tout à fait, puisqu'on avait vu le baptême sur la route. Sauf qu'après, oui, c'est vrai, on n'entend plus parler.
Mais
donc là, il y avait déjà quelque chose. Et donc, nos trois amis, les deux messagers et le soldat, dit le texte, ben, ils s'en vont rapidement. Pourquoi ils s'en vont comme ça ? Ils sont convaincus aussi.
Mais avoir entendu tout le témoignage, et s'ils sont pieux eux-mêmes, ils considèrent dans toute l'importance ce qui a été raconté. Ouais.
Exactement.
Oui, ils ne doutent pas.
Non.
Entièrement confiance.
Ouais, y a-t-il des questions qui restent en suspens sur ces 8 versets ?
Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, quand on y réfléchit un petit peu à toute cette description de Corneille, imagine donc un chef de 100 personnes, 80, d'une importance quand même non négligeable. Tant de personnes sous ses ordres, non seulement l'accord, mais les 100 hommes, mais sa maison, ses serviteurs, peut-être sa femme, peut-être ses enfants. Quelle importance sociale il a aussi, cet homme. Donc il est un petit peu au-dessus de la mêlée. Et c'est un homme qui, par son attitude, reste très humble malgré sa position. Et je me dis aussi, il est reconnu par certaines personnes comme tel. Mais en même temps, j'essaye de transposer ça avec des chefs que j'ai eu à l'usine et que j'imagine un chef qui aurait aimé Dieu de cette manière. Comment est-ce qu'il aurait été accepté ? Est-ce qu'on l'aurait reconnu comme ça ou pas ? Et qu'un chef qui doit avoir une aura, une position, une prestance, puisse être aussi bon avec ses gens, aussi bon avec les étrangers, aussi bon avec ses serviteurs, aussi bon avec ses soldats. Donc, il est vraiment craignant Dieu et pieux jusqu'au bout des ongles, je dirais. On va voir que ce n'est pas encore suffisant. Mais ça, c'est la prochaine fois. Mais il est quand même jusqu'au bout des ongles pour dire « Je suis un chef de 100 personnes, plus mes serviteurs, mais j'ai de la bienveillance pour tout le monde, malgré mon statut. » Ça m'étonne, ça m'épate. Il faut quand même un caractère incroyable. Et je me dis que peut-être certaines personnes doivent profiter aussi de cette humilité et respecter peut-être moins, parce que ça on n'en parle pas, mais comment est-ce que la population, à part ceux qui reconnaissent les aumônes, comment est-ce que la population voit un ennemi chef aussi humble ? On peut avoir de la haine plus facilement, moins de crainte, parce que c'est quelqu'un qui apparaît étant doux. Quand on réfléchit un petit peu, sa position ne devait pas être facile.
Ni envers la hiérarchie, ni envers les gens de l'extérieur.
Mais que pensait son entourage romain ?
Voilà.
Oui, c'est ça.
Certains soldats le suivent.
Ses collègues. Il n'était pas le seul officier.
Mais non.
Je me dis que c'est prendre un fameux risque quand même, de vouloir aimer Dieu dans la position que l'on a.
Et ouvertement, je veux dire, il allait à la synagogue.
Et en plus, dans la capitale romaine, tu vois,
oui, c'est
tout proche du gouverneur, être croyant judaïsant, officiellement, sans se cacher. Alors, peut-être un détail que j'ai omis de dire, mais il faut aussi savoir que tous ces gens-là avaient prêté serment à l'empereur. Comme quoi l'empereur est Dieu. Tu vois, donc ça veut dire qu'il y avait aussi un peu cette remise en.
Ah, oui.
Tu vois, s'il adore le Dieu d'Israël, tout d'un coup, il a quand même dû. Voilà. Alors, du coup, certains commentateurs peuvent s'arranger, disent mais c'est pas grave, il était à la retraite. Oui, en gros, c'est ça. Mais ça, c'est fastoche. Tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. D'accord. Alors, pourquoi aurait-il un soldat à sa disposition alors qu'il est à la retraite, tu vois? À la retraite en Israël, parce qu'il a une concubine juive. Ça, non, c'est marrant, quoi. Quand même, parfois, les gens sortent un peu du texte. Mais donc, tu as raison. Moi, je pense qu'il y a tout ça qui joue.
Ça m'a fait une sacrée position. Au début de ma carrière, j'étais ouvrier. Et dire que tu es chrétien, un ouvrier, bon, tu n'es qu'un ouvrier. Et ça passe encore facilement, bien que tu es quand même ridiculisé. Mais au bout de ma carrière, j'étais cadre. Et devant la direction, dire je suis chrétien, je crois en Dieu, et que le directeur, qui est un fils d'une famille de frères, mais qui ne croit plus, qui dit tu crois que Dieu existe? Et tu es un cadre. Et tes ouvriers, enfin tes collègues qui sont en dessous de toi, dans le sens, je dirigeais une équipe, je réalise que c'est pas si évident, et que parfois, j'avais la gorge qui se nouait, de dire je suis chrétien, je crois en Dieu, je sais que Dieu existe, et moi je dis quand on voit ce témoignage de cet homme, waouh, c'était jusqu'au bout des ongles, hein. Il n'avait probablement aucune peur de pouvoir dire même à ses collègues, à ses officiers au même rang, ou peut-être encore plus haut, de pouvoir dire « Je crois en ce Dieu d'Israël ». C'est impressionnant, je trouve.
Oui, comme tu dis, dans la suite du texte, quand on découvre qu'il a invité tous ses petits copains à cette fameuse rencontre avec Pierre, c'est-à-dire qu'il avait quand même un sacré groupe autour de lui. Hein, le gars, c'est la synagogue à lui tout seul, quoi. Non, c'est impressionnant, quoi. Ouais, ouais. Franchement.
Mais il y a quand même des gens qui ont une certaine aura, même s'ils sont beaux et tout ça, ils ont.
Oui.
Je pense même à Jésus, il avait quand même une aura extraordinaire. C'était le fils d'un charpentier, entre guillemets. Mm-hmm. C'était pas quelqu'un qui avait un titre dans la société. Donc, et on suivait. Il avait une aura, peut-être que lui avait une aura aussi comme ça. Je sais pas, hein.
En tout cas, c'est quand même déjà rien que ce qu'on a vu en 8 versets, un gars exceptionnel.
Voilà.
Pas n'importe
qui. On le remarquait.
Pas n'importe qui, mais du coup, tout à l'heure, on a parlé de ce centurion. Non, c'est même pas un centurion, c'est un officier, je crois, dans Luc 7.
Oui,
certains veulent regarder pour comparer un petit peu. Au chapitre 7, je pense.
Oui, 7. Guérit le serviteur. Ah non, le serviteur. Là.
Un
centurion,
on n'est pas
nécessairement là.
C'est 7.
C'est 6.
C'est l'esclave d'un centurion.
Oui, Jésus guérit le serviteur d'un officier romain.
Et qu'est-ce que tu cherches?
7-1. Qu'est-ce que tu
cherchais? 7-1. Juste mentionner qu'il y a quand même des Romains tout aussi proches, effectivement. Alors, on ne sait pas, lui, s'il était vraiment croyant, mais en tout cas, il fait appel à Jésus, quoi. Quelque part. Et il fait appel à Jésus pour qui?
Oui, pour un serviteur.
Ouais, c'est même pas pour un des siens, quoi. C'est pas pour son fils ou sa femme. Non, pour un serviteur qu'il aimait, dit le texte. Hein. Voilà, ceci dit, on ne sait rien de la foi de cet homme, mais on se rend bien compte que des Romains, parmi ceux qui étaient en Judée en tout cas, il y a des Romains qui n'ont pas eu peur ni d'avoir un rapport avec Jésus, ni de s'engager comme Corneille auprès des Juifs et du judaïsme en général. Mmh. Alors c'est assez marrant parce qu'on parlait tout à l'heure des Juifs qui n'aiment pas les Romains, mais l'inverse était tout aussi vrai. dire que les Romains considéraient le peuple d'Israël comme un peu comme aujourd'hui, quoi, l'empêcheur de tourner en rond, hein, la cause des problèmes, etc. Ce n'est pas pour rien que les Romains ont rayé le territoire d'Israël de la carte. On fait en sorte que ça ne s'appelle pas Israël, quoi. Voilà. Ok, quelles applications on pourrait tirer pour nous de ces quelques versets? Qu'est-ce qui vous a frappé?
Si vous le permettez, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Vous savez que j'aime utiliser une concordance, et quand il y a un mot qui me titille, je vais voir dans la concordance ce qu'on en dit. Et c'est les mots pieux et craignant Dieu. Mm-hmm. Et on en avait déjà parlé il n'y a pas longtemps, que la définition dans Proverbe 8:13, c'est que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Alors là, on a simplement la définition. Mais alors, j'étais voir le mot craindre, et je relève ce que tu viens de dire. Tu viens de parler de l'Ancien Testament. Et probablement que toute la foi juive, la foi honnête et bien ouverte à l'Ancien Testament, on sait et on découvre ce qu'est la crainte, mais ce qu'elle promet aussi. Et j'ai vraiment été étonné de voir que dans la Bible, on parle souvent de la crainte et des bénéfices de la crainte de l'Éternel. Alors la Bible dit, je vous le dis comme ça rapidement, la Bible dit que si on craint Dieu, on a son amitié, on a sa bonté, on a l'œil de l'Éternel sur nous. L'ange campe autour de nous quand on craint l'Éternel. On a le salut. On a une grande bonté de Dieu. On a la compassion de Dieu. On a la bonté. J'ai écrit très mal, la bonté qui dure. On a la nourriture. Dieu promet la nourriture, donc pas seulement pour manger, mais le fait qu'on ait. Dieu pourvoira tous nos besoins quand on le craint. Dieu promet qu'on est heureux. Dieu promet les bénédictions, des promesses, l'accomplissement des désirs et. Ça, je ne sais plus lire. Un appui ferme et la femme qui craint Dieu est louée. Et je me suis arrêté là, mais il y en a tellement encore d'autres. Toutes les promesses liées à la crainte de l'Éternel. Dieu voit cela. Et ça, c'est ce que j'ai retenu, c'est que Dieu a vu Corneille dans toute, on ne va pas dire sa sainteté, parce qu'on va découvrir qu'il doit faire un pas de plus, mais Dieu voit quand même la foi pieuse. Et le mot pieux, j'ai été voir la définition, je trouve ça vraiment intéressant. D'ailleurs, la Bible en parle beaucoup dans Timothée. 1 Timothée. La piété, c'est vénérer Dieu avec affection et respect.
La confiance aussi, ouais. Parce qu'il est tout autour de la confiance en Dieu.
Et je crois qu'il est dit en Timothée, la doctrine selon la piété. Donc, ce que Dieu attend, c'est qu'on ait une doctrine selon la piété. Alors on parle souvent, ah, j'ai envie de connaître la doctrine de la parole de Dieu dans ses moindres détails et je ne veux pas y dévier et je veux vraiment être convaincu. Et c'est vrai qu'on a besoin des doctrines de comprendre les doctrines de Dieu. Mais la véritable piété, c'est selon la doctrine, selon la piété.
Tu veux pas dire la définition de la piété?
La piété, c'est vénérer Dieu avec affection et respect. C'est la définition du dictionnaire. Et quand j'ai vu toutes ces promesses que Dieu donne, ben, je dis voilà, on a devant nous un bonhomme qui a réalisé les promesses de Dieu, qui va encore réaliser plus. On n'a pas fini avec lui. Mais il a réalisé toute l'attention de Dieu qui honore une piété, un respect, une affection. Ça, je trouve formidable.
Et quand tu compares ça avec certaines des autorités du temple, leur comportement est loin d'être égal à celui de Corneille. Tu vois. Et d'ailleurs, on verra plus tard que tout le monde va dire, bah oui, les païens peuvent entrer. Tu vois. Si Dieu a choisi, comment pourrait-on faire autrement? Pour moi, c'est vraiment un beau texte. Alors, d'autres applications ?